Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Mélomanie pour un nouveau numéro de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. La période dite des fêtes de fin d'année arrive à grands pas et avec elle les nombreux concerts qui viennent l'égayer comme le veut la tradition à Toulouse et ailleurs. Il y a déjà eu beaucoup d'événements musicaux la semaine dernière et il va y en avoir encore beaucoup d'autres dans les jours qui viennent. Il y en a même tellement que nous avons du mal à tous les suivre et à vous en rendre compte. Nous allons toutefois nous y essayer avec ceux qui ont accepté de participer à cette émission. Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, et Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. C'est donc à Troyes que nous accueillons aujourd'hui l'invité d'honneur de ce numéro, quelqu'un qu'on connaît bien à Radio Présence, où il produit chaque semaine la très intéressante chronique Flashback, Monsieur Michel Brun, fondateur et directeur artistique de l'ensemble baroque de Toulouse et du festival Passe ton bac d'abord. Et une fois n'est pas coutume, si nous recevons Michel Brun, ce n'est pas pour parler de Jean-Sébastien Bach et de sa musique, mais pour évoquer Handel et son fameux Messie qu'il va donner avec les musiciens de l'ensemble baroque. À Audi-Sud, c'est lundi 16 et mardi 17 décembre. Ce sera le sujet principal de la seconde partie de cette émission. Pour l'instant, place à l'actualité musicale récente. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Et ce retour sur l'actualité de la semaine passée va être copieux et très varié. Nous allons commencer avec l'Orfeo, l'opéra La Fable en musique de Claudio Monteverdi, programmé jeudi et vendredi dernier au Théâtre du Capitole, une production dont la direction musicale était assurée par le ténor Emiliano González Toro et la mise en espace par la soprano Mathilde Etienne. Ces deux chanteurs faisant partie l'un et l'autre bien sûr de la nombreuse distribution. Anne-Marie et Serge, vous avez pu découvrir au Capitole cette production d'une des œuvres fondatrices de l'opéra, si ce n'est même l'œuvre fondatrice du genre. Quelles ont été vos impressions et vos émotions durant ces tout de même deux heures de spectacle ?
D'abord, il faut préciser que c'était probablement la création à Toulouse, plus de 400 ans après, de l'Orfeo. Je n'ai pas repéré de représentation de l'Orfeo au Capitole.
Oui, c'est ce qui me semble aussi. Oui,
donc c'est tout de même incroyable.
Oui.
L'opéra qui est réputé pour être le premier opéra de l'histoire de la musique, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs.
Oui,
hein, parce qu'il y a un certain Rossi qui avait... Et puis même avant, il y avait d'autres...
Euridice. Il y a un Peri, un compositeur bien oublié qui s'appelle Peri, qui a composé sur la même histoire, hein, qui a inspiré tant de compositeurs, un Euridice dont on considère qu'il est effectivement le premier opéra de l'histoire de la musique.
Mais il n'empêche que l'Orfeo est réputé pour être le premier opéra, ce qui prouve son importance hein, dans l'histoire de l'opéra qui est capitale.
Et qui prouve l'importance de Claudio Monteverdi.
Ah oui, non mais c'est un génie absolu quoi, effectivement. Alors donc, on a pu enfin assister à cette création dans des circonstances un peu particulières, puisque Emiliano González Toro, qui est un très beau ténor, qui a déjà chanté sur la scène du Capitole à plusieurs reprises, a fondé son propre ensemble qu'il appelle I Gemelli, un ensemble instrumental donc. Et c'est avec cet ensemble qu'il dirige, non pas quand il chante, on ne le voit pas diriger pendant qu'il chante, effectivement, sur la scène du Capitole. Alors, dans une mise en espace, pas une mise en scène, hein, mais une mise en espace bien faite, avec les personnages qui s'affrontent, qui viennent sur scène, qui se retirent. Il y a quand même un certain mouvement qui était intéressant et bien fait. Mais évidemment, ce que l'on retient de ces deux représentations, pour ma part, j'ai assisté à la première, c'est la qualité du chef et du ténor. Vraiment, Emiliano González Toro a exactement la voix,
le timbre
que l'on souhaite pour Orfeo. Orfeo, quelquefois chanté par des barytons,
oui.
Mais la plupart du temps par des ténors. Et il a un grave suffisant pour assumer absolument tout l'ambitus du rôle, et c'est ce qui fait son intérêt. En plus, évidemment, il a une habileté, une virtuosité à la vocalisation, qui est ce qu'il faut. Enfin, le grand air d'Orfeo est un modèle de vocalisation, et qu'il a magnifiquement chanté d'ailleurs. Plus un pouvoir expressif, une qualité musicale au sens des phrasés. Enfin bon, ça a été vraiment le grand triomphateur, on peut dire, de cette soirée. Puis il y avait des gens très bien à côté de lui, évidemment, hein, avec notamment Emeke Barat, que j'ai pour ma part beaucoup apprécié dans Eurydice, et la Musica, c'est la première qui s'exprime, hein, tout un symbole. Plus, bon, des chanteurs vraiment excellents, avec aussi une particularité pour Jérôme Varnier, qui chantait Caronte, alors avec une voix, mais grave, une voix sombre, impressionnante, qui convenait tout à fait au, à Caron, à l'entrée des enfers, puisque c'est lui qui véhicule les âmes perdues.
La barque des enfers.
La barque des enfers, donc ça, c'était très très bien. Et puis un ensemble instrumental vraiment de qualité, surtout pour les cordes. J'ai trouvé les cordes fabuleuses, extraordinaires, avec notamment quelqu'un que l'on connaît qui est Stéphanie Pollet au violon, et puis surtout Thomas Dunford, qui est le co-directeur, d'ailleurs, de ce spectacle, avec Emiliano González Toro. Et lui, sa contribution aux luttes était tout à fait impressionnante, parce que ça s'entendait très bien, et il y avait un continuo, c'est très important d'en faire le continuo, évidemment, qui était tout à fait extraordinaire, avec pas moins de 5 viols de gambe. Donc c'est quand même extraordinaire. Plus un violon et plus une harpe. Et puis Violaine Cochard, clavecin et orgue. Il y avait 2 clavecins et un orgue. Donc vraiment un très beau spectacle qui a été vraiment très apprécié du public qui, pour la plupart, voyait Orfeo pour la première fois, ce qui est incroyable.
Voilà, Thomas Dunford, qui est aussi le fondateur de l'ensemble Jupiter, et j'avais eu le plaisir de l'interviewer cet été lors du festival de Rocamadour. Anne-Marie, vous étiez aussi présente. Alors, votre avis ?
Je crois que je suis tout à fait en accord avec ce que vient de dire Serge. Il n'y a pas de réserve à émettre sur ce spectacle, qui était en fait plus qu'un concert, puisqu'il y avait cette mise en espace qui suffisait à définir les lieux, les allées-venues des chanteurs. Il y avait 2 estrades, c'était bien fait. Et tous les chanteurs, dont bien sûr l'interprète principale d'Orfeo et la très jolie voix d'Eurydice et la musique d'Emok Barat, étaient bien sûr excellentes, mais en fait toute la distribution. Et je crois que cette entrée de l'Orfeo de Monteverdi au Théâtre du Capitole, avec des moyens relativement limités mais suffisants en fait, n'ont pas fait une énorme production, qui a suffi pour que les gens puissent découvrir cette œuvre et l'apprécier musicalement et vocalement. Et c'est une belle réussite, je crois.
Eh bien, puisqu'Emiliano González Toro semble rallier tous les suffrages, nous allons l'écouter maintenant dans un extrait de l'Orfeo, Orfeo son Io, un air de l'acte 3. Orfeo son Io, air de l'acte 3 de l'Orfeo de Claudio Monteverdi, interprété par Emiliano González Toro, que vous avez également pu entendre dans ce même rôle d'Orfeo au Théâtre du Capitole jeudi et vendredi dernier. Je voulais aussi avoir, non pas l'avis de Michel Brun sur la production, parce que je crois que vous ne nous avez pas assisté. En revanche, l'Orfeo, c'est une œuvre à laquelle vous tenez beaucoup, qui pour vous est une espèce de référence absolue dans ce baroque des débuts.
Voilà, tout à fait. Là, c'est vraiment pour moi un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique, vraiment incontestablement. Pour moi, le plus grand, le plus bel opéra de Monteverdi. J'aime beaucoup Monteverdi d'une manière générale, mais là, il y a quelque chose de particulièrement profond, particulièrement touchant dans cette œuvre. Voilà, j'ai pas beaucoup plus de mots que ça pour le dire. C'est pour moi une œuvre absolument exceptionnelle et fondatrice dans l'histoire de la musique, il n'y a pas de doute. Oui.
Et dire qu'il a fallu attendre 4 siècles pour l'entendre au Théâtre du Capitole, on a du mal à y croire, mais bon. Écoutez, mieux vaut tard que jamais. Le lendemain, samedi 7 décembre, il y avait beaucoup de choses encore en soirée à Toulouse, un peu trop même, mais ce sont les hasards du calendrier. Nous allons d'abord parler du concert donné conjointement par la maîtrise de Toulouse et les Sacboutiers à Saint-Pierre-des-Cuisines, un concert auquel vous avez assisté, Serge Chosy, et qui était organisé pour une occasion bien particulière.
Oui, en effet, il s'agissait de faire la présentation, et même, pourquoi ne pas le dire, la promotion, de l'enregistrement que les deux ensembles ont réalisé, d'un programme qui n'avait rien à voir avec le programme qu'ils ont joué ce soir-là, qui était un programme sur les musiques pour les funérailles royales espagnoles. Un programme autour du grand Requiem de Thomas Witt de Vitoria, qui est une merveille hein, absolue. Et donc, ils ont enregistré les deux ensembles. Et donc, à cette occasion, Marc Obstat, qui est le directeur de la maîtrise du Conservatoire de Toulouse, ou maîtrise de Toulouse tout simplement, donc avait tenu à préparer une soirée, présenter au public une soirée au cours de laquelle il présentait le disque et il offrait un programme alors tourné vers Noël, hein, un programme tout à fait dans la période de l'Avent que nous vivons actuellement. Donc c'était très intéressant. Alors je voudrais préciser que cet enregistrement, qui est paru maintenant donc, très bel enregistrement, c'est la première fois qu'est enregistrée la version avec instrument du Requiem de Vitoria. Oui, absolument. Il y a de nombreux enregistrements de cette œuvre, mais uniquement avec les chanteurs. Or, on sait très bien qu'à l'époque, il y avait des instruments qui, dans les églises, soutenaient les voix, et donc c'est ce qu'ils ont fait ici.
On peut parler d'inédit, on peut dire
le mot. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Donc, très bien. D'ailleurs, je conseille aux auditeurs d'écouter cet enregistrement.
On peut se le procurer sur le site des Sacboutiers, je suppose.
Et oui, et celui de la maîtrise.
La maîtrise également.
Oui, exactement. Mais alors, pour ce qui est du concert de ce soir-là, il y avait deux parties. Une première partie, alors ça, évidemment, on connaît Marc Obstat, qui est britannique, évidemment. Bah, c'est un peu l'expert en la matière des maîtrises, et l'Angleterre, on le sait, c'est la patrie des maîtrises. Hein. Et donc, il a tenu dans une première partie à faire chanter par ses jeunes élèves les Ceremony of Carols de Benjamin Britten. Alors, c'est une série de chants, accompagné par la harpe d'ailleurs, et la harpiste excellente était Dominique Piussan-Gasciarino, qui est je crois au Conservatoire de Toulouse. Et donc on a eu d'abord droit à cette succession de chants magnifiquement chantés. Il faut quand même dire que la maîtrise de Toulouse a une réputation internationale incroyable. J'ai lu des critiques aussi bien américaines, britanniques, dithyrambiques sur les productions de cette maîtrise. Pas simplement pour les enregistrements, mais pour les concerts. Et donc, Marc Obstat fait un travail magnifique avec ses jeunes chanteurs et qui vraiment le considère comme un second père. C'est ce que des petits chanteurs m'ont dit. Pour nous, c'est un second père.
Oui, mais c'est pas étonnant.
C'est pas étonnant. Hein. Et alors, les timbres ont une qualité de fraîcheur, ces timbres de voix d'enfant, tout à fait touchante. Une justesse, une cohésion, une précision, une dynamique. Donc, c'était vraiment très, très bien, très, très beau, toute cette première partie. Dans la deuxième partie. Là, on est reparti vers la Renaissance avec des pièces vocales et instrumentales de cette époque-là, avec du Jacobus Gallus, du Zwilling, du Praetorius, du Gabrielli et du Samuel Scheidt. Voilà des noms oui. Que l'on connaît bien, dans lesquels les deux ensembles excellent. Et donc, c'était vraiment un panorama formidable de cette période, avec toujours des pièces reliées à Noël, hein, avec des passages extrêmement jubilatoires, comme cette ode de Zwilling, ou un choral magnifique d'ailleurs, qu'ils ont redonné en bis, qui est de Michael Praetorius. Es ist ein Ross entsprungen. Bon, je ne traduirai pas, mais un choral d'une tendresse, d'une douceur, d'une beauté extraordinaire, avec aussi un enthousiasme communicatif pour la dernière pièce qui était de Samuel Scheidt à propos de la venue du Sauveur à Bethléem. Donc, vraiment un très beau moment, assez court, hein, ce n'était pas un concert très long, avec ces trois parties, donc britanniques, la présentation du disque et puis les chants de la Renaissance à propos de Noël.
Voilà, et puis je le rappelle, n'hésitez pas à vous procurer le CD, vous trouverez le Requiem de Victoria, interprété par la maîtrise de Toulouse et les Sacboutiers. Vous pouvez aller sur le site internet des uns ou des autres pour vous le procurer. Autre concert, ce même samedi 7 décembre à la Halle aux Grains, également à 20h, celui de l'Orchestre National du Capitole. Nous vous l'avions annoncé la semaine dernière, un concert pour lequel on retrouvait Tougan Sokiev à la tête de ses troupes, ainsi que le jeune pianiste Lucas Debargue pour interpréter le concerto numéro 1 de Franz Liszt. Il y avait également au programme la très belle symphonie numéro 8 de Shostakovich. Nous y étions tous les deux, Anne-Marie, et ça a été une grande soirée de musique, d'une part grâce à la personnalité de Lucas Debargue, et d'autre part grâce à une flamboyante interprétation de la 8e de Shostakovich. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, à commencer par la prestation de Lucas Debargue dans le premier concerto de Liszt, et puis aussi dans les bis qu'il a joué ensuite?
Oui, mais moi, j'avoue que dans ses concerts, je vais peut-être un petit peu avoir une voix discordante. Il avait été question à une époque de supprimer le concerto systématique dans la programmation des concerts. Parce que je trouve que c'est toujours une sorte d'exercice où un pianiste vient faire preuve de sa maîtrise technique, bien sûr, mais où il ne se passe pas toujours grand-chose sur le plan musical. Donc là, c'était un concerto de Liszt, joué comme on doit le jouer, avec la maîtrise technique qu'il faut, une belle virtuosité. Voilà, et je pense que le public a apprécié, puisqu'ils ont rappelé, comme le veut l'habitude, longuement le pianiste. Mais moi, j'attendais avec impatience l'interprétation de la 8e symphonie de Shostakovich.
Oui, vous venez pour Shostakovich.
Non, pas que pour Shostakovich.
Mais ça serait
un autre compositeur. Je trouve que c'est vrai qu'un concert où il y a des pages ou symphoniques, souvent se suffit à lui-même par cette programmation, la partie concertante est rarement quelque chose de musicalement totalement réussi, même si les artistes, les solistes font preuve de beaucoup de maîtrise, mais c'est pas forcément passionnant. Et les concertos pour piano de Liszt sont des œuvres très extérieures et essentiellement techniques.
Oui, il faut dire que le concerto, les deux, mais notamment le premier concerto de Franz Liszt, c'est pas le grand concerto pour piano tel qu'on connaît chez Mozart ou Beethoven, c'est certain.
Et Lucas Debargue a ce qu'il faut pour jouer.
Oui, mais il a joué avec un tempo très rapide d'ailleurs. On regardait après le concert, on voyait que sur le programme, il était indiqué durée d'exécution 20 minutes. Ça a été beaucoup plus rapide que ça.
Oui, tout à fait.
Mais lui, il prend un tempo rapide et il s'y tient jusqu'au bout. Pas comme certains, je ne citerai pas. Donc, c'était très bien. Et puis, c'est un musicien très intéressant avec une forte personnalité qui aime beaucoup le jazz et ça se sent dans ses interprétations. Je referme la parenthèse. Oui. Je vous laisse parler de la 8e de Shostakovich.
Écoutez, voilà ce que vous venez de dire. C'est à peu près ce que j'ai ressenti. Le public était ravi, la rapidité d'exécution. Donc, il faut dire que Franz Liszt écrivait des pages et des pages de musique qui lui-même était un interprète plus que virtuose. Et ses concertos, ne sont pas forcément très très inspiré, mais c'était ce qu'on attendait dans ce répertoire.
Alors la 8e de Shostakovich, là, allez-y, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, vraiment.
Là, il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est une œuvre comme toutes les symphonies de Shostakovich. C'est difficile à exprimer d'ailleurs, qui est pleine de choses que le compositeur a voulu dire à des périodes où il n'avait pas forcément la possibilité totale de s'exprimer dans un pays où la liberté d'expression était quand même assez contrôlée, mais qu'il a réussi en musique à écrire des partitions qui sont souvent énormes, immenses, avec des durées assez longues et qui expriment beaucoup de choses. Et cette symphonie, qui est une symphonie de guerre, puisque c'est de
1943. La date est importante.
Est une œuvre qui est teintée d'une sorte de désespoir, puisque c'était une période pour la Russie, comme toute l'Europe, hélas, une période terrible où on mourait, où les gens souffraient. Et donc, cette symphonie évoque, hélas, cette période avec l'art de Shostakovich, qui était de faire appel à des instruments souvent solistes, qui ont des moments d'une très grande émotion, expression. Et je crois que là, l'orchestre a donné la plénitude De sa maîtrise dans ce répertoire. Ils l'ont d'ailleurs reprise lundi soir à Paris, à la Philharmonie, et le concert a été enregistré en direct par Medici TV et il est encore disponible si on veut le réécouter. Oui. Les commentateurs ont été unanimes à parler de cette réussite au plan de la symphonie qui était vraiment techniquement avec des solos. Là il y a le hautbois qui a des solos bouleversants. C'était superbe et surtout très très émouvant.
Les bois
et
les cuivres ont plusieurs solos.
Les bois et les cuivres sont très intenses et c'était un grand moment de musique. Et Shostakovich, qui a souvent été décrié en France et en Europe parce que il aurait été un compositeur officiel du régime d'une époque. Voilà, c'est toujours la grande question des musiciens. Est-ce que les musiciens sont totalement indépendants? Aujourd'hui, ils le sont, mais à beaucoup d'époques.
Quand on vit sur une dictature, n'importe quel artiste, en général, on l'est pas tout à fait.
Mais je pense que dans tous les pays, la liberté de l'interprète quand même peut émerger sous beaucoup de choses. Si on est un grand musicien, on peut faire fi de ça, non ?
Voilà, donc 1943, vous savez, bataille de Stalingrad, l'armée soviétique face à l'armée nazie, bon, c'était quelque chose d'extrêmement violent et ça durait très longtemps. Bon, ça passe, il y a des moments où la musique est très martiale. D'ailleurs, je disais par moments, Tougansokiev était plus un chef d'armée qu'un chef d'orchestre. On a l'impression parfois d'être sous les bombardements, il y a comme des coups de sirène, il y a toujours cette espèce d'angoisse, de danger, on sent un danger qui plane en permanence. Alors, est-ce que c'est le danger lié à la guerre ou est-ce que c'est le danger tel que Chostakovitch pouvait le ressentir dans sa propre vie? Ça, c'est une autre question. Toujours est-il que quand l'œuvre est sortie, à l'époque, les autorités soviétiques avaient trouvé qu'elle était trop sombre. Parce oui. que c'était le moment où les choses commençaient à s'inverser, où l'armée soviétique commençait un peu à prendre le dessus et on sentait que sur la durée, ils allaient effectivement, et c'est ce qui s'est passé, battre l'armée allemande. Voilà, mais bon, c'est une œuvre, une richesse exceptionnelle et je trouve qu'on met en valeur toutes les possibilités de l'orchestre. Je ne sais pas ce qu'en pense Michel Brun, qui, tout baroque qu'il est, connaît forcément la 8e de Chostakovitch.
Voilà, alors actuellement, mon activité musicale est essentiellement consacrée à la musique baroque, mais j'ai très longtemps pratiqué d'autres musiques, et y compris la musique contemporaine. Et je rebondis sur ce que disait Anne-Marie Chouchan tout à l'heure par rapport à une certaine suspicion par rapport à la musique de Chostakovitch. Il y a eu plusieurs choses pour lui, malheureusement. L'histoire déblaira tout ça, c'est un des plus grands compositeurs du 20e
oui,
siècle.
Oui, maintenant, ça commence à savoir.
C'est ridicule de le contester, mais il se trouve que Chostakovitch a aussi écrit à une certaine période relativement tard, dans un style qui n'était pas archi-contemporain. Voilà. Oui. Hein, Chostakovitch n'a pas révolutionné l'écriture musicale.
On le reproche souvent d'être académique.
Et donc, ça lui a été reproché par une certaine, on va dire, intelligentsia artistique, musicale, etc. Bon, voilà, c'est des procès, il y en a eu dans tous les temps.
Hein, la même chose avec Sibelius, d'ailleurs.
Mais bien sûr. Mais quelque part, la même chose avec Bach, puisque Bach était considéré à la fin de sa vie comme un vieux ringard. Il écrivait encore des fugues, le malheureux, à une époque où on faisait plutôt de l'opéra italien. Et donc voilà, à chaque époque, il y a des grands génies qui n'ont pas besoin d'être à la pointe de la mode pour produire des œuvres de tout premier plan. Et Chostakovitch est incontestablement un de ces grands génies, point, quoi, voilà. Et alors après, effectivement, je reviens juste d'un mot, je prétends pas connaître à fond ces démêlés avec le pouvoir, mais je pense que quand on est un créateur dans sa situation, on est sur le fil du rasoir,
bien
littéralement.
Sûr.
Le nombre d'artistes qui ont été fusillés, qui ont été envoyés au goulag, qui ont été simplement muselés, empêchés de travailler. Donc c'est très dur de juger des personnes comme ça, à l'heure actuelle, avec le confort que nous avons, nous, dans nos pays à l'heure actuelle. Quoi. Je pense qu'il était sur un fil absolument pour pouvoir continuer à écrire de la musique.
La seule chose qu'on peut dire tout de même, c'est qu'avec le temps, l'histoire finit par leur rendre justice.
Oui.
Artistiquement et même souvent humainement.
Oui, tout à fait d'accord.
Ben, c'est le cas de Chostakovitch, puisque aujourd'hui, ces symphonies, il n'y a pas qu'à l'Orchestre du Capitole, Tugansokiev est russe, mais qu'on les joue aujourd'hui, ces 15 symphonies sont devenues, on pourrait dire, des classiques, même pas des classiques du XXe siècle. La grande question du XXe siècle, ça a été la remise en question de la tonalité, avec
l'école de Vienne,
Schoenberg voilà. et en France Boulez, qui a fait que l'autre musique, parallèlement, a été considérée comme démodée, et aujourd'hui, tout ça...
Voilà pour Dimitri Chostakovitch. J'avais passé la semaine dernière un extrait de sa 8e symphonie. Là, je voudrais qu'on parle de Lucas Debargue, qui a été très applaudi, à tel point qu'il a joué 2 bis, la sonate K253 de Scarlatti et une toccata de sa composition, parce qu'il est aussi compositeur, Lucas Debargue. On va l'écouter tout de suite. Lucas Debargue joue la sonate K253 de Domenico Scarlatti. Thank you. Luca de Bargue, qui jouait donc la sonate K253 de Domenico Scarlatti, le premier des deux bis qu'il a donné samedi dernier lors de son concert avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. J'espère qu'on reverra vite ce jeune et très intéressant pianiste à Toulouse. Quatrième et dernier événement sur lequel nous souhaitions revenir, le traditionnel concert de Noël du chœur du Capitole. Il y avait deux possibilités d'y assister, soit samedi, soit dimanche. Vous y êtes allé dimanche, je crois, Anne-Marie, et je me suis laissé dire que c'était vraiment très bien.
Écoutez, le public était ravi de pouvoir assister à un concert dit de Noël. Ça fait partie aussi du plaisir qu'on peut ressentir à écouter des chants de Noël traditionnels, puisqu'il y a eu des chants de Noël traditionnels en deuxième partie. Et en première partie, c'était des extraits d'opéra d'Offenbach, qui étaient pour la plupart assez peu connus d'ailleurs. Donc tout ce public était ravi de passer un bon après-midi du dimanche. Un concert de Noël, peut-être de circonstances, mais qui est toujours très apprécié, hein, puisque dans tous les domaines, il y a des musiques qui ont été composées dans cette époque, des musiques religieuses ou non religieuses d'ailleurs. Et le chœur du Capitole, ça fait déjà 2 ans ou 3 ans qu'il donne un concert de Noël.
Un double concert même.
Un double concert, oui, qui est toujours attendu. Ça fait partie des plaisirs de cette époque.
Mais maintenant, voilà, c'est une tradition bien installée. Alors, ce qui a été joué, ce sont surtout des chœurs, bien sûr, d'opérettes d'Offenbach. Alors, je crois qu'il y avait La Belle Hélène, La Grande Duchesse de Gerolstein et Orphée aux Enfers, encore Orphée. Décidément, c'était la période Orphée. Offenbach, alors c'est particulier parce que en 2019, c'était les 200 ans de sa naissance et en 2020, ce sera les 140 ans de sa mort. Donc il va être sans doute fêté en 2019 et commémoré en 2020. On devrait l'entendre, je pense, beaucoup dans l'année qui se profile. Est-ce qu'il y avait des enfants qui étaient présents? Parce qu'on peut penser pour les concerts de Noël, il y a des enfants qui viennent pendant
le public. Il y avait des enfants, oui. Ouais. Oui, mais il y avait un public très mêlé, en fait. Hein. Des enfants, des familles, des seniors, des gens qui aiment bien aller au concert plutôt l'après-midi, puisque le dimanche était l'après-midi. Il ne faut pas méconnaître ce public qui n'aime pas forcément sortir le soir, hein, de toute génération.
Voilà, mais parmi les nombreux airs traditionnels de Noël du monde entier qu'a chanté le chœur du Capitole le week-end dernier, il y avait « Hark, the Herald Angels Sing », qu'on peut traduire par « Écoutez, les anges chantent ». On va écouter chanter les anges, en voici une version par ce même chœur du Capitole. Hark, the Herald Angels Sing, écoutez les anges chantent, air traditionnel anglais, chanté par le chœur du Capitole lors de ses concerts de samedi et dimanche dernier au Théâtre du Capitole, ce qui nous permet de terminer en douceur cette première partie d'émission, quelques secondes de pause, et nous allons retrouver Michel Brun pour évoquer le Messie de Handel et les concerts de l'ensemble baroque de Toulouse à Audi Sud lundi et mardi. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Seconde partie de Mélomanie avec Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et avec notre invité d'honneur Michel Brun, fondateur et directeur artistique de l'ensemble baroque de Toulouse, qui est en concert au Dissud, c'est lundi 16 et mardi 17 décembre à 20h30, pour y donner donc le Messie de Handel. Inutile de rappeler la passion que nourrit Michel Brun pour Jean-Sébastien Bach, une passion qui s'est incarné dans les deux manifestations que vous lui consacrez et que vous avez fondées à Toulouse avec l'ensemble baroque, la saison des cantates sans filet et le festival Passe ton bac d'abord, mais concernant Handel, qui est l'exact contemporain de Bach, né comme lui en 1685, où le placez-vous dans votre petit panthéon des grands compositeurs du baroque ?
Alors c'est une excellente question, parce que le cas de Handel est pour moi très particulier. Vous l'avez dit, très naturellement, tout dans mon évolution musicale me porte vers Jean-Sébastien Bach. Non seulement bien sûr sa musique, mais à travers sa musique, l'homme qu'on devine qu'il était, puisque vous le savez sans doute, on a très très peu de documents, mais cet homme se sent à travers sa musique. Voilà. Et se sent peut-être aussi d'ailleurs, c'est drôle parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, donc je fais des chroniques également sur Radio Présence qui s'appelle Flashback, et j'en ai rédigé une hier soir, pas plus tard qu'hier soir, qui sera donc diffusée dans les semaines qui viennent et qui concerne les citations de personnes célèbres qui ont parlé de Bach. Et ce qui me frappe dans ces citations, il y en a probablement qui disent la musique de Bach est belle, elle est très belle, ou elle est plus ou moins belle. Ou, bon, voilà. Il avait aussi des détracteurs à son époque. Mais le nombre de personnes qui ont parlé de Bach en parlant d'autre chose que de sa musique, c'est-à-dire en parlant de ce qu'il y a derrière sa musique, en parlant de ce que sa musique apporte dans la vie d'une manière générale. Voilà, je citerai juste la dernière phrase de ma chronique, c'est pas pour faire de la pub, c'est juste parce que je la trouve incroyablement belle. C'est l'écrivain français André Suarez qui a écrit sur Bach et qui dit, voilà, cette musique est la cathédrale de la musique. Elle a été écrite pour les temps passés, pour le temps présent et pour les jours qui sont à venir. Et je trouve ça d'une beauté stupéfiante. Parce que là, on sait que cet homme, il est capable d'envelopper l'humanité entière à travers sa musique. Voilà. Donc, si vous voulez, ce goût, cet amour immodéré que j'ai pour cette musique et pour cet homme, les deux sont indissociables pour moi. C'est quelque chose qui est plus fort que tout. Et donc, assez naturellement, et il faut le faire pour un ensemble comme l'autre, quand on a à se tourner vers un autre compositeur, en l'occurrence Handel, c'est le cas aussi quand on va vers Vivaldi, vers Telemann, voilà. On se dit, oh, dommage, on abandonne Bach. Et à chaque fois, la magie opère, c'est-à-dire qu'il y a autre chose. Alors, je ne trouve pas du tout la même chose chez Telemann, hein. Cette profondeur, cette universalité, ce sentiment que la musique est complètement transcendée par une idée qui est derrière, disons. Mais par contre, il faut bien reconnaître, c'est de la magnifique musique. C'est une musique absolument extraordinaire. Et à chaque fois, ça me fait la même chose. C'est pas la première fois qu'on travaille. Personnellement, je travaille, j'ai déjà joué avec d'autres ensembles. Le Messie de Handel. Ah, bon, c'est archi connu. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans et tout. Et on ouvre la partition et on est saisi par la qualité de cette musique. C'est écrit d'une manière inouïe. Alors, un sens de l'écriture vocale incroyable, quelque chose de festif, d'incroyablement inventif sur le plan musical. Donc voilà, c'est autre chose que Bach. Pour moi, ça n'a pas la même profondeur. Mais par contre, quelle réjouissance, quel bonheur que de faire cette musique.
Alors, c'est une œuvre de la grande maturité pour lui, hein, 1741, il a 56 ans, et c'est une œuvre qui surgit un moment où il a connu une espèce de série d'échecs, je crois.
Oui, tout à fait. Ben, faut savoir que Handel, c'était pas seulement un musicien. Et alors, c'est drôle, vous avez donc fait le parallèle, évidemment, et il est très logique de faire le parallèle avec Bach, du fait de engagement de notre ensemble dans la musique de Bach, et de ce hasard de l'année de naissance, 1785. Tout les oppose, absolument, je pense. Hein. Bach était d'une famille plutôt modeste, il était orphelin, d'une famille nombreuse, donc pas beaucoup de temps pour s'occuper des enfants. Orphelin très tôt, avec des moyens très faibles, il a dû travailler, il a dû d'abord aller vivre chez son frère, puisqu'il n'avait plus de parents à partir de 10 ans quand même, hein. Ce qui oriente d'une manière générale la vie, on va dire. On voit la vie certainement d'une manière particulière quand cela arrive. Donc il a dû travailler très tôt gagner sa vie, parce que son frère ne pouvait pas le nourrir sans rien faire, etc., etc. Handel, lui, il est originaire d'un milieu très aisé, et il a cette particularité que son père était un chirurgien. Alors, on dit ça comme ça. À l'époque, c'est pas du tout la même chose. On imagine maintenant un chirurgien. Oui. Voilà, c'est un personnage. On confie, en général, avec une grande confiance, disons, sa vie à un chirurgien. À l'époque, c'était pas du tout le cas. Oui. Je pense que c'était
plus aléatoire. Sûrement.
Voilà, c'est ça. C'est entre le chirurgien. J'imagine à peu près ça comme ces personnages, vous savez, dans les Lucky Luke, ces personnages qui arrivent dans les villages du Far West avec un élixir censé soigner toutes les maladies et qui repartent, quand ils ne sont pas accrochés au bout d'une corde, qui repartent enduits de goût et de plumes, oui. Parce qu'on s'aperçoit évidemment que c'est des charlatans.
Les chirurgiens étaient souvent des barbiers à l'époque.
Oui, alors ils étaient barbiers et chirurgiens.
Pas que chirurgiens.
Mais voilà, il semblerait que le père de Handel était donc un aventurier, on va dire comme ça, un personnage un petit peu interlope, enfin on n'a pas énormément de précision, mais un peu bizarre. Mais par contre, qui vivait dans une très grande aisance. Handel était lui-même un fils unique, et donc il a bénéficié de cette très grande aisance. Alors est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est les hasards de la personnalité? Il était très ambitieux. Alors que Bach a passé sa vie comme un petit artisan modeste, tout en ayant ayant très conscience de son très grand talent, voire de son génie, mais en ne le revendiquant pas. Alors que Handel, lui, voilà, c'était un mondain, il voulait réussir, il se donnait tous les moyens de réussir. Et donc, il avait aussi un côté entrepreneur, hein, il a monté un théâtre dans lequel il donnait ses œuvres, évidemment, essentiellement. Il était très égocentré. On sait que, par exemple, Bach a dirigé des oratorios de Handel et que Handel n'avait rien à faire de la musique de Bach. Et donc, voilà, c'était ce personnage passionnant parce que très moderne. Voilà, hein, il y avait cette idée que j'écris ma musique, mais il va falloir aussi que j'aille la défendre. Donc, il montait lui-même ses spectacles et tout. Et il s'est pris des fours. Ça marche, des fois, ça marche très bien. Il a gagné beaucoup d'argent, il a eu beaucoup de succès. Et puis, des fois, il s'est pris des fours. Et donc, à la période du Messie, effectivement, il avait traversé une période un peu difficile et il a composé son Messie en 24 jours. Les détracteurs de Handel devraient toujours se rappeler de ça. C'était quand même un compositeur absolument génial, parce que composer une œuvre comme celle-là en 24 jours, c'est une performance inouïe, quoi.
Est-ce que c'est un des grands, si ce n'est le grand chef-d'œuvre du genre oratorio ?
Ah, je pense oui. Oui, on peut dire comme ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est difficile de dire ça. C'est comme de dire le premier opéra, on en parlait tout à l'heure pour Monteverdi, ou le plus grand opéra baroque, je ne sais pas. C'est toujours difficile. Est-ce que les passions de Bach sont des oratorios ? Pour moi, pas. Hein, je défends cette thèse, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, dans un livre qui va paraître bientôt, que j'ai rédigé.
Ah, alors, on en reparlera, oui.
Oui, on en reparlera. J'y tiens beaucoup. Donc, je dis c'est intéressant. Évidemment, ça paraît immodeste ce que je dis, mais j'y tiens beaucoup parce que c'est une réflexion assez, évidemment, qui correspond à une expérience assez profonde maintenant de la musique de Bach. Je pense que les passions ne sont pas des oratorios. Donc, on ne peut pas les ranger dans ce cadre-là. Alors, si on exclut les passions de Bach, oui, je pense que le Messie est clairement un des plus grands oratorios qui ait jamais été écrit, absolument.
Alors, le texte du Messie se réfère essentiellement à la résurrection du Christ, et Handel avait fort logiquement composé son œuvre pour la période de Pâques, et pourtant, vous allez la donner une semaine avant Noël. Alors, ça paraît étonnant, mais il semble que ce soit une tradition ancienne qui existe même depuis la mort du compositeur.
Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir quand même que justement, contrairement aux passions de Bach, le Messie parle aussi de la naissance du Christ.
Oui, la première partie.
Voilà, la première partie. Et donc,
C'est souvent que la première partie qu'on joue.
Oui.
Jusqu'à l'Alléluia, peut-être quand même,
de la seconde.
La fin de la seconde partie.
J'ai jamais vu qu'on ne jouait pas l'Alléluia.
À quelle époque, en tout cas, pour la période de Noël.
D'accord.
Pour être cohérent.
Voilà. Alors, c'est ça la grosse différence avec les passions de Bach et les passions des autres compositeurs du temps. Telemann, il en a écrit je ne sais plus combien, plus de 20. Enfin bon, voilà, c'était aussi une tradition d'écrire des passions. C'est que cette œuvre, donc, effectivement, elle s'adapte à ces deux fêtes religieuses, puisqu'elle parle de la naissance et de la mort du Christ. Et donc, voilà, aucun problème.
Il n'y a pas de raison pour ne pas la jouer pendant la période de l'Avent. Alors, première section du Messie, donc, annonce de la venue du Christ et de sa naissance. Puisqu'on en parle, comment se découpe cette œuvre ? Il y a trois parties.
C'est
de
ça.
Quoi traite-t-elle chacune après l'autre ?
Alors, disons que chaque partie traite, mais d'une manière qui n'est pas du tout cursive, comme la passion. C'est pas une histoire. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'il n'y a pas d'évangéliste. Il n'y a pas de conteur, hein. C'est donc plus des impressions, on va dire, des traductions musicales d'impressions. Alors, évidemment, a child is born. Donc, un enfant nous est né, hein, dans la première partie pour la naissance du Christ. Mais ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans aucune des trois parties, il n'y a pas ce pas à pas aux côtés du Christ raconté par quelqu'un qui nous fait vivre cette action comme si on la vivait nous-mêmes. Voilà. C'est vraiment une œuvre de concert. Et donc, qui, en ce sens-là, prend des distances très importantes. La douleur qui est exprimée dans la passion est infiniment plus poignante que ce qui est exprimé dans le Messie, qui reste quand même globalement une œuvre de fête. Et à mon avis, d'ailleurs, c'est parce que dans les trois parties, la tonalité générale reste la tonalité de fête. C'est pour ça que c'est donné aussi souvent, voire plus souvent à Noël, qu'au moment de la Semaine Sainte. Voilà.
Eh bien, vous venez d'en parler. Dans la première partie du Messie, qui est donc dédiée à la naissance de Christ, il y a cet air célèbre, très joyeux, très festif, que je vous propose d'écouter maintenant. For unto us a child is born.
Come on.
For Unto Us a Child is Born, un extrait de la première partie du Messie de Handel, interprété ici par le Boston Baroque, sous la direction de Martin Perlman. Alors Michel Brun, est-ce que c'est comme ça que cette œuvre doit être chantée selon vous?
Alors je vais vous dire, je vais vous faire une réponse d'interprète. Quand on est interprète, de nos jours, on a une chance par rapport aux personnes qui à l'époque devaient créer les œuvres. Sauf quand c'était évidemment le compositeur qui la dirigeait et qui savait très exactement ce qu'il voulait. Mais nous on a une chance, c'est qu'on on possède, maintenant avec YouTube c'est infini, sans même se déplacer dans une médiathèque, on a un nombre incomparable de versions qu'on peut écouter. Et moi j'ai remarqué la chose suivante, je suis frappé par ça. Au bout d'un certain temps de travail, pas au début d'un temps de travail d'une œuvre, mais au bout d'un certain temps, j'écoute donc différentes versions de cette œuvre. Et à un moment donné, on se dit, tiens, c'est celle-là qui me correspond le mieux. Et puis après, vient le travail avec les musiciens. Et si on a l'occasion de réécouter la version dont on se sentait très proche à une époque, on se dit, mais c'est pas possible que c'était ça qui me plaise. Parce que, évidemment, on développe sa propre vision des choses. Vous le savez sans doute, une des richesses de la musique baroque, c'est qu'il y a très 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 peu de choses qui sont écrites sur les partitions. Très probablement, d'ailleurs pour la raison que je donnais tout à l'heure, j'en vois deux, mais il y en a peut-être d'autres. La première raison, c'est que c'était souvent les compositeurs qui créaient leurs œuvres. Et donc ils n'avaient pas besoin de l'écrire, ils le disaient en direct. En général, à part le Messie, mais qui a eu un succès presque inespéré. Mais par exemple, prenons le cas des cantates de Bach, elles étaient extrêmement rarement rejouées. Et donc Bach ou son copiste n'allait pas perdre son temps à noter des indications. Il les disait en direct, les gars les notaient en vitesse au crayon, et puis hop, après Bach a connu une seule cantate éditée de son vivant quand même, c'est incroyable. Donc on ne peut pas comparer notre vision de la musique. Donc rien de noté, pas de tempo, pas d'indication genre con expression et avec expression ou bien etc. Pas d'indication d'expression, pas d'indication de tempo, je l'ai dit, pas de nuance, pas de phrasé. Il y a très peu de courbes, vous savez, qui veulent dire legato ou de points sur les notes qui veulent dire staccato, qu'il faut les détacher, il n'y a rien. Donc nous interprètes, on a là un énorme champ de liberté. Et donc, du coup, effectivement, on s'approprie cette musique à force de l'approfondir et de la travailler. Et chacun en donne sa propre version, plus ou moins bonne. J'aime bien celle-là, oui.
Celle-là voilà. Vous plaît. Bon.
Elle me plaît.
Qu'est-ce qu'on ne doit surtout pas rater? Qu'est-ce qu'il faut mettre en évidence, selon vous, dans cette musique?
Je pense qu'il faudrait surtout pas se priver de montrer au public le bonheur que c'est de faire cette musique. C'est une musique de joie, et j'ai envie de dire même dans ses passages dramatiques. Comment je pourrais dire ça? Je ne soupçonne pas Handel d'être quelqu'un d'hypocrite. C'est-à-dire quand il écrit une musique profonde, il y a un chouvli, à un moment donné quelque chose qui est poignant. Je ne le soupçonne pas d'être hypocrite et de rigoler derrière. Mais il y a quand même toujours une distance, on va dire. C'est un malin. Voilà, je sais pas comment vous dire,
c'est un malin. C'est un petit malin.
C'est un petit malin, voilà. C'est-à-dire que c'est un séducteur. Disons plutôt qu'un malin, c'est un séducteur.
Je pense qu'on a compris.
Et donc, il veut séduire son public, et donc même dans les passages dramatiques, Bach, lui, il en a rien à fiche. Il va au fond des choses, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Que les instrumentistes ou les chanteurs viennent lui dire « Oh là là, c'est super à chanter » ou pas, ce qui n'est pas le cas. Bach, c'est toujours difficile à chanter, c'est toujours difficile à jouer. Handel, c'est toujours bien écrit pour les instruments et pour la voix. Voilà. Et c'est ça qu'il faut pas rater, cette joie qu'il y a à faire de la musique, on va dire avec spontanéité, avec bonheur, avec plaisir d'échanger, voilà, avec le public.
Eh bien, c'est parfait, parce que ce que vous allez dire illustre le morceau qu'on va écouter maintenant, c'est évidemment le plus célèbre du Messie mondialement connu, et je ne peux pas ne pas le diffuser, c'est bien sûr le chœur qui clôt la deuxième partie, le toujours réjouissant Alléluia.
Thank you.
L'Alléluia du Messie de Handel, interprété une nouvelle fois par le Boston Baroque de Martin Perlman. Là encore, Michel Brun, c'est ainsi qu'il convient de chanter, avec exubérance, avec exaltation. Il faut que ça exulte.
Ah ben, si on n'exulte pas dans l'Alléluia de Handel, on n'exulte nulle part. Alors là, vraiment, il y a eu une tendance, si vous voulez, voilà, l'Alléluia. Alors, il faut surtout dire aux auditeurs, donc le Messie, vous l'avez dit, est en trois parties. L'Alléluia conclut la deuxième partie. On ne fera pas d'entracte, mesdames et messieurs, à la fin de la deuxième partie, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le Messie se termine à l'Alléluia. Mais une troisième et magnifique dernière partie d'ailleurs, avec un air de soprano absolument à pleurer, comme savait les écrire Handel quand il voulait, voilà. Et il y a eu une mode à une époque par rapport au Messie en général et peut-être à cet Alléluia, parce que évidemment ça avait été interprété par des orchestres absolument démentiels en nombre, mais d'ailleurs du vivant de Handel lui-même, hein, on a trace de Messie interprété par 1000 interprètes, voilà, donc ça devenait un petit peu grotesque, un peu grandiloquent. Donc il y a eu une mode qui était de l'alléger à tel point que ça devenait presque, je sais pas, une œuvre légère, quoi. Mais non, c'est pas léger. C'est pas parce que c'est rebondissant que c'est léger. C'est une exaltation intérieure. Et donc, oui, moi j'entends là cette exaltation dans cette version. À mon avis, il faut le faire comme ça. Voilà.
Et ce sera comme ça.
Donc, je l'espère bien.
Voilà pour le Messie Odissude avec l'ensemble baroque de Michel Brun. C'est lundi 16 et mardi 17 décembre à 20h30. Une très belle soirée. Ne pas rater avant Noël. Il y a d'autres concerts au début de cette semaine, décidément. L'agenda musical est souvent embouteillé ces temps-ci parce que le lundi 16 à 20h, c'est aussi le deuxième rendez-vous de la saison des Clés de Saint-Pierre. À Saint-Pierre-des-Cuisines, avec, comme le veut le concept de cette 20e saison, des œuvres très originales et une autre discipline que la musique au programme. Serge, dites-nous, quelle est cette discipline et quelles sont les œuvres qu'on va entendre? Parce qu'il n'y a pas que le Pierrot Lunaire.
Non, il y a une œuvre de Toru Takemitsu et puis le Pierrot Lunaire d'Arnold Schoenberg. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que dans sa version française, puisque le poème est en français. Il a été traduit pour que Schoenberg le mette en musique, mais l'original du poème est en français. Donc, ça sera chanté en français et c'est accompagné par une chorégraphie. Et une chorégraphie qui implique les musiciens. Ils se contentent pas de rester dans leur coin à jouer, ils se déplacent. Ils interviennent dans la chorégraphie. Donc, c'est très particulier.
Oui, alors apparemment, c'est Elsa Marquet-Lienhardt, qui voilà. Est flûtiste, mais qui a aussi fait une chorégraphie et qui se définit, alors j'ai vu, actrice de mouvement. Alors,
oui, oui,
c'est
oui.
C'est vraiment de la danse. Mais
c'est très particulier, voilà. Oui,
c'est
comme
actrice
appellation.
De mouvement. Oui. On va retrouver la mezzo Victoire Bunel, qu'on a entendue tout récemment à Musique au Palais.
Musique au Palais,
formidable.
Une magnifique chanteuse. Alors là, qui a un rôle très particulier, un rôle de récitante. Donc le Sprechgesang, vraiment, c'est la naissance du Sprechgesang, est très particulier. C'est une manière de parler sur une partition musicale. Je sais que Schoenberg a écrit des tas d'indications pour la chanteuse, mais il y a tellement de liberté, comme ce que nous disait Michel Brun à propos de la musique baroque, où il n'y a pas d'indications. Eh bien là, c'est un peu le cas.
Tellement d'indications que du coup, on se sent libre.
Mais voilà, et en fait, certaines interprétations, alors c'est assez amusant, dans certaines interprétations, la chanteuse chante carrément les notes qui sont écrites. Et dans d'autres, elle joue la récitation et elle dit, tout simplement, sans vraiment chanter. Donc, il y a vraiment une latitude incroyable entre les deux possibilités de cette exécution.
Voilà, et donc, en apéritif de cette soirée, vous l'avez dit, il y aura le masque pour deux flûtes de Toru Takemitsu.
Voilà.
Donc, la flûte va être très à l'honneur ce soir-là. Oui. Michel Brun, le flûtiste, appréciera.
Et là, il est vraiment désolé de ne pas pouvoir. J'adore Toru Takemitsu.
On est beaucoup à l'aimer. Depuis quelques années, on l'entend de plus en plus souvent.
Exactement.
Notamment
vraiment un grand compositeur que, pour ma part, je trouve qu'il hérite de Debussy.
Oui, ah, oui.
Voilà
un compositeur aussi qui a été en butte d'ailleurs à un certain mépris à une période parce que son langage n'est pas révolutionnaire, mais encore une fois l'histoire choisira.
Il est tellement poétique.
C'est une poésie, tout à fait.
Et finalement, il est très japonais tout en étant inspiré par un compositeur français.
Exactement.
On va écouter un petit extrait du Pierrot Lunaire. Cet extrait, ce morceau, le titre c'est Mondestrunken et c'est une version de l'ensemble intercontemporain de Pierre Boulez.
Schmorlich und süß, du schwimmest ohne Zahn die Flut. man mit Augen trinkt, gießt nach dem Mond den Wogen nieder. Der Dichter, den die Andacht hält, berauscht sich an dem heiligen Tropfen, den Himmel blendet, immer zückt das Haupt. Und Taumel zuckt und schlürft er den Wein, den man mit Augen trinkt.
Mondestrunken, un extrait du Pierrot Lunaire d'Arnold Schönberg, une version de l'ensemble intercontemporain sous la direction de Pierre Boulez. C'est donc l'œuvre qui est au centre du deuxième concert de la saison des Clés de Saint-Pierre, ce lundi 16 décembre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Changement d'univers pour un autre concert programmé le 16 décembre, celui que donne l'ensemble Pygmalion de Raphaël Pichon à la Halle aux Grains, encore à 20h. Il fait partie du cycle des grands interprètes, il est intitulé Liberta et il est consacré entièrement à Mozart. C'est bien ça, Serge ?
C'est bien ça. Une période particulière de la production de Mozart, c'est-à-dire ce qu'il a conçu entre l'enlèvement au sérail et le fameux triptyque da Ponte e Nos Figaro, Don Giovanni così fan tutte. Donc, il se cherchait en quelque sorte et Raphaël Pichon a imaginé donner une série d'airs de concert qui étaient comme un peu des esquisses pour les opéras, donc des airs de concert de Mozart et des extraits de deux opéras qu'on n'entend jamais, oui, dont un est inachevé, Il sposo deluso, c'est-à-dire l'époux déçu, et Loca del Cairo, c'est-à-dire loi du Caire, que pour ma part, je n'ai jamais entendu. Et donc, il y aura des extraits de ces deux opéras parmi les airs de concert qui sont inscrits au programme.
Voilà, et encore une des curiosités de la semaine qui vient. Fin du présent numéro de Mélomanie. Merci à mes amis Anne-Marie Chouchan et Serge Chosy de l'avoir co-animé à mes côtés. Et tous mes remerciements également à Michel Brun d'en avoir été l'invité, passionné, prolixe et brillant comme toujours. J'en profite pour rappeler que vous produisez la chronique Flashback, diffusée chaque mardi vers 7h20 sur notre antenne. Et je rappelle aussi bien sûr que l'ensemble baroque de Toulouse va donner le Messie de Handel à Audisud, c'est lundi 16 et mardi 17 décembre à 20h30. Renseignements, réservations et achats des places en ligne sur le site www.audisud.com. Avant cela, notez que le cinéma L'ABC de Toulouse projette en direct de Covent Garden ce samedi 14 décembre à 15h Don Pasquale, l'opéra de Donizetti. Vous pouvez vous informer et faire vos réservations en vous connectant au site www.abc-toulouse.fr. Je rappelle aussi le beau concert organisé par l'Amicale des Arméniens de Toulouse Midi-Pyrénées ce dimanche 15 décembre à 19h à la Halle aux Grains. Un concert caritatif avec du classique, du jazz et des musiques de l'Est pour lequel vous pouvez réserver sur le site www.guyanque.festic.net. Guyanque, ça s'écrit G-U-I-A-N-K. Pour le concert des Clés de Saint-Pierre ce lundi 16 décembre à 20h avec le Pierrot Lunaire de Schönberg au programme, vous pouvez vous informer, réserver et acheter vos places sur le site www.lesclésdesaintpierre.org. Et enfin pour le concert Liberta de l'ensemble Pygmalion de Raphaël Pichon, ce même lundi 16 à 20h à la Halle aux Grains, entièrement consacré à des airs de Mozart, les renseignements et les réservations sont disponibles sur le site www.grandsinterprètes.com. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne semaine musicale. À tous !